Extrait du livre Histoire d'une vie d'Aaron Appelfeld, lecture faite par René Adjiman. Au début des années 50, lorsque j'ai commencé à écrire, les mots sur la guerre coulaient déjà à flot. Nombreux étaient ceux qui racontaient, témoignaient, se confessaient et jugeaient. Ceux qui avaient promis à leurs proches et à eux-mêmes de tout raconter après la guerre tenaient leurs promesses. Ainsi apparurent les carnets, récits et volumes de mémoire. Beaucoup de douleurs est figée dans ces parchemins, mais aussi les nombreux clichés et considérations extérieures. Le silence qui avait régné pendant la guerre et peu après était comme englouti par un océan de mots. Nous avons l'habitude d'entourer des grandes catastrophes de mots afin de nous en protéger. Les premiers mots de ma main furent des appels désespérés pour trouver le silence qui m'avait entouré pendant la guerre et pour le faire revenir vers moi. Avec le même sens que celui des aveugles, j'ai compris que dans ce silence était cachée mon âme et que, si je parvenais à le ressusciter, peut-être que la parole juste me reviendrait. Mon écriture fut d'abord inclodiquement pénible. Les épreuves de la guerre grouillaient en moi, lourdes et pesantes, et je voulais les refouler plus encore. Je voulais construire une nouvelle vie sur mon ancienne vie. Il m'a fallu des années pour me retrouver, mais une fois cela accompli, la route était encore longue. Comment donne-t-on une forme à ce contenu brûlant? Par où commence-t-on? Comment relier les chaînons? Quels mots utilise-t-on? Sur la Seconde Guerre mondiale, on écrivait principalement des témoignages. Eux seuls étaient considérés comme l'expression authentique de la réalité. La littérature, elle, apparaissait comme une construction factice. Moi, je n'avais pas de témoignages à offrir. Je ne me souvenais pas des noms, de personnages, ni des lieux, mais d'une obscurité, de bruit et de gestes. C'est uniquement avec le temps que j'ai compris que ces matières premières étaient la moelle de la littérature et que, partant de là, il était possible de donner forme à une légende intime. Je dis intime, car à cette époque, on ne considérait que la chronique, comme si en elle seule se trouvait la vérité. L'expression intime n'avait pas encore vu le jour. Ma poétique personnelle s'est formée au début de ma vie. Et lorsque je dis « au début de ma vie », je pense à tout ce que j'ai vu et perçu dans la maison de mes parents et durant la longue guerre, aux hommes, aux croyances, aux sentiments et aux mots. Ce rapport n'a pas changé avec le temps. Ma vie s'est pourtant enrichie. J'ai amassé des mots, des termes, des connaissances, mais le rapport fondamental est demeuré tel quel. Durant la guerre, j'ai vu la vie dans sa nudité, sans phare. Le bien et le mal, le beau et le laid se sont révélés à moi mêlés. Cela ne m'a pas transformé, grâce au ciel, en moraliste. Au contraire, j'ai appris à respecter la faiblesse et à l'aimer. La faiblesse est notre essence et notre humanité. Un homme qui connaît sa faiblesse sait parfois la surmonter. Le moraliste ignore ses faiblesses et au lieu de s'en prendre à lui-même, il s'en prend à son prochain. J'ai parlé du silence et du soupçon, de la préférence pour le fait plutôt que pour l'explication. Je n'aime pas m'étendre sur les sentiments. Une trop grande propension à parler des affects nous entraînerait toujours vers le labyrinthe sentimental, vers le piétinement sur place et l'aplatissement. Un sentiment qui découle d'un fait est un sentiment solide. Je feuillette mon vieux journal. Les feuilles ont jauni, verdi. Certaines sont collées les unes aux autres. Et l'écriture irrégulière est à moitié effacée. Il est resté longtemps au creux d'une valise, sans que je l'ouvre. Je craignais que ces cahiers ne dévoilent les inquiétudes et les défauts que je m'efforce d'ignorer depuis des années. Nous sommes en 1946, année de mon arrivée en Israël. Et le journal est une mosaïque de mots allemands, yiddish, hébreu et même ruthen. Je dis mots et non phrases, car cette année-là, je n'étais pas encore capable de relier les mots en phrases. Les mots étaient les cris étouffés d'un adolescent de 14 ans, une sorte d'aphasique qui avait perdu toutes les langues qu'il savait parler. Le journal lui servait de jardin secret dans lequel il amoncelait ce qui subsistait de la langue maternelle, ainsi que le vocabulaire qu'il venait tout juste d'acquérir. Cet amoncellement n'est pas une forme d'expression, mais un instantané de l'âme. Sans langue, tout n'est que chaos, confusion et peur infondées. À cette époque, la plupart des enfants autour de moi bégayaient, parlaient trop fort ou avalaient les mots. Sans langue, le caractère nu est dévoilé. La voix des plus expansifs d'entre nous était plus forte et celle des plus renfermés était avalée dans leur mutisme. Sans langue maternelle, l'homme est infirme. Ma langue maternelle était l'allemand. Ma mère aimait cette langue et la cultivait. Dans sa bouche, les mots avaient une sonorité pure, comme si elle les prononçait dans une clochette de verre exotique. Ma grand-mère parlait yiddish et sa langue avait un autre son, ou plus exactement un autre goût, car elle m'évoquait toujours la compote de pruneaux. La domestique parlait un ruthen mêlé de mots à nous et de mots de ma grand-mère. Je passais chaque jour de longues heures avec elle. Elle n'exigeait de moi ni discipline ni docilité. Son seul désir était de me faire plaisir. Je l'aimais et j'aimais sa langue. Et le souvenir de son visage est encore gravé en moi. Bien que dans un moment d'épreuve, alors que son aide nous était aussi nécessaire que l'air l'est à la respiration, elle se fut enfuie de la maison, les poches pleines de bijoux et de l'argent qu'elle nous avait volé. Une autre langue que nous n'utilisions pas à la maison, mais qui demeurait très présente dans la rue, était le roumain. Après la Première Guerre mondiale, la Bucovine, ma terre natale, avait été annexée à la Roumanie, et la langue du pouvoir était le roumain. Nous le parlions tant bien que mal, et nous ne l'intégrâmes jamais. Nous baignions dans quatre langues qui vivaient en nous dans une curieuse harmonie en se complétant. Si on parlait en allemand et qu'un mot, une expression, un dicton venait à manquer, on s'aidait du yiddish ou du ruthen. C'est en vain que mes parents tentaient de conserver la pureté de l'allemand. Les mots des langues qui nous entouraient s'écoulaient en nous à notre insu. Les quatre langues n'en formaient plus qu'une, riche en nuances, contrastée, satirique et pleine d'humour. Dans cette langue, il y avait beaucoup de place pour les sensations, pour la finesse des sentiments, pour l'imagination et la mémoire. Aujourd'hui, ces langues ne vivent plus en moi, mais je sens encore leurs racines. Il suffit parfois d'un mot pour faire surgir par magie des visions entières. Je reviens à 1946. L'année de mon arrivée en Israël, sur le bateau et ensuite dans le camp d'athlètes où nous fûmes parqués par les Anglais. Nous apprîmes quelques mots d'hébreu. D'hébreu, ils avaient une sonorité exotique, mais étaient difficiles à prononcer. Il n'y avait aucune chaleur en eux. Leur son n'éveillait aucune association, comme s'ils étaient nés dans le sable qui nous entourait de toutes parts. Plus grave encore, ils résonnaient comme des ordres. Travailler, manger, ranger, dormir. Il ne s'agissait pas d'une langue que l'on parlait doucement, mais d'une langue de soldat. Dans les kibboutzim et les camps de jeunesse, la langue était imposée de force. Celui qui parlait dans sa langue maternelle était blâmé, mis à l'écart et parfois puni. Je n'ai jamais été bavard. Même le peu qui sortait de ma bouche était ravalé. Nous cessâmes de parler entre nous. Et de nouveau, comme toute situation critique, le caractère était plus apparent que jamais. Les expansifs et les dominateurs savaient en profiter. Dans leur bouche, les mots étaient transformés en ordre. Ils prenaient possession du moindre espace en un clin d'œil. Leur voix s'élevait haut et fort. Je me repliais de plus en plus. La première année en Israël ne fut pas pour moi une sortie vers le monde, mais un repli de plus en plus crispé sur moi-même. La première année, nous travaillâmes dans les champs et apprîmes l'hébreu, la Bible et les poèmes de Bialik. Les images de la maison et les sons de la langue qu'on y parlait disparaissaient, et la nouvelle langue ne prenait pas racine facilement. Il y avait, comme je l'ai dit, des jeunes gens qui avaient adopté facilement les clichés hébraïques, usaient des mots comme s'ils étaient nés là. Mais, en ce qui me concerne, la prononciation d'un mot me coûtait de grands efforts, sans parler d'une phrase tout entière. Parfois, j'allais à Jaffa, ou plus exactement à Jabalia, où habitent quelques parents à moi et des gens que j'avais connus avant la guerre. Avec eux, ma langue maternelle sortait un instant de sa gaule, de sa géole. Pour surmonter le mutisme et le bégaiement, je lisais beaucoup dans les deux langues que je savais lire alors, l'allemand et l'yiddish. Je me répétais des phrases entières pour retrouver le flux de la parole. Comme je l'ai dit, ma langue à l'époque n'était composée que de mots. Une phrase entière me coûtait énormément. Je bégayais comme nombre de mes amis. Et la lecture dans les deux langues de ma mère était une tentative désespérée pour surmonter ce handicap. L'effort pour conserver ma langue maternelle dans un entourage qui m'imposait un autre était vain. Elle s'appauvrissait de semaine en semaine, et à la fin de la première année, il n'en demeura que quelques brandons sauvés des flammes. Cette douleur n'était pas univoque. Ma mère avait été assassinée au début de la guerre, et durant les années qui suivirent, j'avais conservé en moi son visage, en croyant qu'à la fin de la guerre, je la retrouverais et que notre vie redeviendrait ce qu'elle avait été. Ma langue maternelle et ma mère ne faisaient qu'un. À présent, avec l'extinction de la langue en moi, je sentais que ma mère mourait une seconde fois. C'était une désolation qui se répandait dans mon corps, telle une drogue, lorsque j'étais éveillé, mais aussi lorsque je dormais. Dans mon sommeil, j'errais avec des cohortes de réfugiés, tous bègues, et seuls les animaux, les chevaux, les vaches et les chiens sur le côté de la route parlaient une langue fluide, comme si l'ordre des créatures s'était inversé. Pendant plusieurs années, je poursuivis mes efforts pour adopter les mots et transformer en langue maternelle. Ce journal jauni posé sur mon bureau en est une preuve vivante. Nul besoin d'être graphologue pour voir le tourment, la confusion, la désorientation. Les fautes d'orthographe n'apparaissaient pas qu'en hébreu, mais aussi dans ma langue maternelle. Chaque lettre raconte la déchirure et le malheur et une conscience suraiguë de moi-même. Que vais-je faire sans langue? Me demandais-je. Dans ces journaux qui tombent en lambeaux, sans langue, je suis semblable à une pierre.